Sans papier, que faire en cas d'arrestation? Si on n'a pas de papier, après un contrôle d'identité, on peut être arrêté, puis emmené au commissariat, puis placé au centre de rétention, puis expulsé. Ce document va décrire quoi faire à chacune de ces étapes. Il est très important de garder en tête ses droits, car s'ils ne sont pas respectés, cela peut permettre d'être remis en liberté.
Comment se préparer? Il ne faut jamais avoir son passeport sur soi. Pour ces démarches administratives, il est toujours mieux d'être accompagné et que la personne qui vous accompagne garde le passeport avec elle. Il faut préparer une copie de son dossier. Ce dossier doit être classé et à jour. Ce dossier et son passeport doivent être déposés chez quelqu'un, à une adresse accessible et sûre, différente de celle que vous donnez aux policiers. Cette personne doit pouvoir être jointe tout le temps. Enfin, il vaut mieux avoir déjà pris contact avec un avocat ainsi qu'avec une association de soutien ou de sans-papiers. Ils pourront vous aider en cas d'arrestation.
Au moment du contrôle d'identité. En cas de contrôle, on a le droit de demander pourquoi on est contrôlé. Les policiers peuvent demander l'identité de la personne qu'ils contrôlent et la fouiller. Il faut savoir ce qu'on a dans les poches, quel papier et à quel nom, pour pouvoir décider quel nom déclarer. Si vous avez décidé de donner votre vraie identité, il vaut mieux avoir préparé un dossier, qu'il soit ou non déposé à la préfecture. Il est possible de donner un faux nom et ou une fausse nationalité. Mais dans ce cas, il faut toujours donner le même faux nom. Par exemple, si vous avez déjà été arrêté et que vous avez donné vos empreintes, il faudra garder le nom que vous aviez donné à ce moment-là. Il faut que vos proches ou votre collectif connaissent ce faux nom. Il est important de se souvenir comment s'est passé le contrôle d'identité, car cela pourra être utilisé au tribunal. Les lieux d'arrestation. Dans certains lieux, les arrestations sont plus fréquentes. C'est le cas dans les moyens de transport. C'est pourquoi il est important d'avoir un titre de transport ou de l'argent pour payer en cas d'amende. Dans les gares, les stations, les arrêts de bus, lors de contrôles routiers ou encore sur des lieux de travail.
Au commissariat. En cas d'arrestation, cela commence par une vérification d'identité d'une durée maximum de 4 heures. Si vous avez déjà été arrêté dans le passé ou que vous avez déjà une obligation de quitter le territoire français, OQTF, vous serez placé en garde à vue pour une durée maximale de 48 heures. Sinon, dans la plupart des cas, vous serez placé en retenue, d'une durée maximale de 16 heures. Au commissariat, on peut être interrogé. On n'est pas obligé de répondre aux questions autres que celles de l'identité et de l'adresse. Il ne faut pas signer les documents dont on ne comprend pas le contenu. Les policiers ne peuvent pas vous obliger à signer. L'adresse que l'on donne aux policiers doit être différente de celle où se trouve le passeport et le dossier photocopié, car la police a la possibilité d'aller à l'adresse donnée pour prendre les papiers et le passeport. Les policiers peuvent prendre vos empreintes. Dès le début de la retenue, on a le droit de voir un avocat, soit le sien si on en connaît un, soit un avocat de permanence si on n'en a pas ou que le sien ne peut pas venir. De voir un médecin, d'être accompagné par un interprète et de prévenir quelqu'un. Il est important de prévenir une personne de confiance qui peut elle-même prévenir d'autres gens et éventuellement un avocat. Au cas où les policiers vous enlèvent votre portable, il faut connaître de mémoire le numéro de la personne à prévenir. Il est important de bien se souvenir comment s'est passée la retenue, qui vous avez vu ou non, car cela pourra être utilisé au tribunal. Vous pouvez en parler avec votre avocat, mais il ne faut pas en parler avec les policiers.
À la fin de la retenue ou de la garde à vue, les policiers donnent une OQTF. Puis, soit on est conduit au centre de rétention, soit on est remis en liberté. Que l'on signe ou non, cette OQTF est valable. Il faut faire le recours dans les 48 heures à partir de la date et l'heure à laquelle le policier nous l'a remis. Le recours doit être faxé au tribunal administratif. Il doit être signé par la personne qui a reçu l'OQTF ou par son avocat. Ce recours peut, dans un premier temps, être une lettre simple expliquant sa situation, pourquoi on veut rester en France. On peut toujours compléter son dossier dans un deuxième temps. Le recours permet de ne pas être expulsé jusqu'à votre passage devant le tribunal administratif 3 jours plus tard.
Au centre de rétention. Au centre de rétention, on peut téléphoner depuis les cabines, voir en visite qui on veut, voir un médecin et un avocat. Il est possible que la police confisque le téléphone portable car il est interdit de prendre des photos à l'intérieur du centre de rétention. C'est pourquoi il faut connaître de mémoire le numéro d'une personne à contacter. Pour faire le recours contre l'OQTF, il y a les permanences d'une association. Elle a un bureau ouvert dans le centre, sauf les soirs et le week-end. Cette association dispose d'un fax pour envoyer le recours au tribunal administratif. Si l'association n'est pas là, il faut demander une fiche de recours au policier, la remplir et la rendre pour qu'il la faxe. Il faut bien garder la preuve que le fax a été envoyé. On peut aussi demander à quelqu'un à l'extérieur de faxer le recours. Si la police a votre passeport ou un laissez-passer. Dans les bureaux des associations, vous pouvez trouver un formulaire de demande d'asile. Vous pouvez faire une demande d'asile pendant les 5 premiers jours de la rétention. Cela peut permettre de ne pas être expulsé jusqu'au passage devant le JLD, juge des libertés et de la détention. Si la police n'a pas votre passeport ni votre vraie identité, au centre de rétention, la police va chercher à connaître votre identité et votre nationalité. Vous serez présenté à un consul pour qu'il donne un laissez-passer. La police en a besoin pour vous expulser. Mieux vaut ne pas parler avec le consul.
Au tribunal administratif. Au bout de 72 heures maximum, on passe devant le tribunal administratif. Le tribunal administratif peut décider d'annuler l'OQTF. Le juge va regarder votre situation personnelle. C'est pour ça qu'il est important d'avoir constitué à l'avance un dossier avec des preuves écrites de votre vie en France. Certains éléments, comme des preuves de mariage, de pacte, de contrat de travail, demande d'asile ou toute preuve de vie en France, sont très importants.
Devant le juge des libertés. Au bout des 5 premiers jours en rétention, on passe devant le juge des libertés et de la détention, JLD. Ce juge regarde si tout s'est passé dans les règles lors du contrôle d'identité, au commissariat et au cours des premiers jours en rétention. Il ne regarde pas la situation personnelle. Il faut insister auprès de votre avocat pour qu'il regarde s'il y a des défauts dans la procédure. Si le juge constate des défauts, par exemple si vous n'avez pas vu de médecin ou d'avocat ou d'interprète, on peut être libéré. Attention, même si on est libéré, l'OQTF est toujours valable. Il peut être mis à exécution pendant 1 an. Si les règles ont été respectées, le juge ordonne le maintien en rétention pour 20 jours. On peut faire appel de cette décision devant la cour d'appel dans un délai de 24 heures. L'association présente dans le centre de rétention peut aider à rédiger et à faxer l'appel. Sinon, la police a également des formulaires pour le faire. La cour d'appel peut décider de libérer la personne ou de confirmer la rétention. Au bout de 25 jours en rétention, on passe devant le JLD, qui regarde comment s'est passée la rétention sur les 20 derniers jours. Il peut décider d'une libération ou d'un maintien en rétention. On peut à nouveau faire appel de cette décision devant la cour d'appel dans un délai de 24 heures. Au maximum, on reste au centre 45 jours. Pendant ces 45 jours, si la police a votre passeport, vous pouvez être expulsé n'importe quand, mais on peut aussi être libéré à tout moment.
L'expulsion. On peut refuser d'embarquer dans l'avion. Si on veut refuser, on peut prévenir des proches à l'extérieur pour qu'ils viennent à l'aéroport parler avec les passagers qui pourront vous soutenir dans l'avion. Dans ce cas, soit on retourne en rétention si les 45 jours ne sont pas terminés, soit on passe en procès car le refus d'embarquement est un délit pénal. On peut être condamné à de la prison et ou à une interdiction du territoire français. Si c'est la première fois qu'on refuse d'embarquer, on est le plus souvent remis en rétention. Après un refus d'embarquer, on peut aussi être libéré, notamment s'il y a eu une mobilisation à l'aéroport.
Les vices de procédure. Il faut être attentif tout au long de la procédure, car si les flics n'ont pas respecté certaines règles, vous pouvez être libéré devant le JLD. Voici quelques exemples.
Au moment de l'arrestation.
Le fait de se mettre à courir ou de changer de direction en voyant les policiers n'est pas un motif valable d'arrestation. Le fait d'être un individu suspect ne suffit pas.
au moment de la garde à vue.
Il n'y avait pas d'interprète alors que vous ne parlez pas français. Vous n'avez pas pu voir de médecin ou d'avocat alors que vous l'aviez demandé.
Au moment de la rétention.
Le temps de trajet entre le commissariat et le centre de rétention était trop long. Par exemple, 2h30 pour 4 km, sans que les policiers ne puissent le justifier. Au centre de rétention, vous n'avez pas pu téléphoner car on ne vous a pas proposé de carte téléphonique ou il n'y avait pas de téléphone à disposition.